Allez, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, on décale encore l'audio du lundi parce que nous recevons en toute simplicité, cette fois-ci, eh bien, le vainqueur de la Hard Rock, un Français de plus qui gagne cette Hard Rock avec Aurélien Dunant-Palaz. Aurélien qui revient d'un joli périple, hein?
Ouais, super expérience du côté des États-Unis. Je suis arrivé il y a 3 jours là, donc un petit peu en décalage encore, mais ouais, une super expérience humaine et sportive.
Eh oui, mais l'homme s'est adonné à la bringue avec un mariage, loin de chez toi, rebouger, etc. Sacré bordel.
Ouais, je suis arrivé à Genève et puis j'ai enchaîné directement à un voyage en Bretagne, donc là je suis en Bretagne pour cet audio mais ouais, non, on profite après la course, c'est pas très grave, je reposerai encore, j'ai le temps.
Eh oui, on reconnaît la note savoyarde, hein, c'est on va pas en Bretagne, on voyage en Bretagne, hein, c'est tellement loin que...
Ah bah
Ok!
ouais, j'ai jamais allé en plus. C'est l'occasion.
Ah, tu y es jamais allé? Ah oui.
Non, c'est l'occasion.
D'accord. Ah, tu nous diras ce que tu en penses à ton retour.
Non.
Tu remportes cette Hard Rock, tu mets 23 heures dans ce sens-là, donc c'est le sens des années 2021-2019, t'as 8e temps de l'histoire. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à cette Hard Rock? Parce que c'est une course un peu. C'est un 100 miles, ce qui est quand même très particulier.
Ouais, bah c'est un 100 miles qui est très montagneux, donc
Ah oui.
ça pour le coup c'est un paramètre qui me plaît bien, quoi. J'aime ces parcours-là. Il y a des parties qui sont techniques. Après, on a l'impression où on veut montrer que c'est très technique et tout, mais ça l'est pas énormément parce qu'il y a beaucoup de pistes forestières et surtout dans ce sens-là. Dans ce sens-là, en fait, on a 3 grosses parties, voire 4, de pistes forestières en montée. Dans l'autre sens, tu les fais en descente, donc ça change un peu la donne, ça rend la course plus rapide, mais là on les fait vraiment monter. Mais ça reste une course quand même engagée par endroit. Là cette année avec la neige, c'était quand même un beau chantier quand même par endroit. Et donc c'est un peu tout ça qui m'a plu, le côté altitude aussi, puis le côté aussi dépaysement, voyage. Ça m'a permis de visiter le Colorado, de partir aux États-Unis, c'est quand même. Voilà, c'est le côté voyage aussi qui m'attirait.
À découvrir un peu les US. Justement, l'altitude, la course, donc le point le plus bas, tu es juste en dessous de 3000 mètres et le point le plus haut, tu passes à 4002, c'est ça?
Non, un peu plus bas. Le point le plus bas, c'est à 2005, je crois. Le départ est à 2850. Et là, ouais, la moyenne, on est à 3350. Et
Oui.
on monte quasiment à 4300, ouais, 4200 et quelques. Et on flirte chaque sommet, en fait, tu passes souvent à 3950 ou 4000. Souvent, les sommets, c'est ça, ouais. Donc, c'est vraiment de l'altitude, quoi, pour le coup, là.
Ouais, donc ça, c'est quand même très particulier, parce qu'évidemment, tout au long de l'année, tu n'y vas jamais à ces altitudes.
Non, je fais du ski de rando, mais toi, le ski de rando, je monte en général, je monte au max à 2000-2100, hein, et exceptionnellement, quand je vais en Beauportain un peu plus loin, je monte à 2005, mais non, ouais, je vais jamais à 3000, hein, quasiment, ouais, j'y vais pas.
Et du coup, tu avais mis en place une préparation un peu spécifique. Alors, t'es pas parti vivre très haut à la montagne. Mais t'as amené la montagne chez toi avec une tente à hypoxie?
Ouais, c'est ça exactement. C'est une entreprise française, Trekalti, qui m'a gentiment aidé dans cette préparation. Donc j'ai fait 3 semaines de tente, donc où je dormais
Ah oui!
dans une tente, voilà, entre les parties de nuit, entre 8 et 10 heures. J'essaie de rentabiliser les journées où je bossais sur mon ordi, bah, je me mettais le temps un peu plus. Et puis j'ai fait 3-4 séances, je crois, d'home trainer où là je pouvais me mettre avec, en fait, je changeais un tuyau sur le mécanisme, le truc, et je montais même à 4500. Je peux mettre à 4500, je faisais cool, hein. J'ai fait 4 fois du entraîneur. Et puis pendant ces 3 semaines-là, j'ai même fait une course en Italie, le Monte Rosaschi Marathon, où je suis monté à 4500 en condition de course, une course de 4h30. Donc là, j'étais vraiment à fond, quoi. Et voilà, bon, tout s'est bien passé, j'ai pas eu de mauvaises sensations ni pendant la phase de l'attente, parce que c'est un peu, chacun peut réagir différemment. En général, on dit que quand tu commences, faut pas trop t'entraîner, faut plutôt diminuer l'entraînement pour voir comment tu réagis. Moi, j'ai un peu tout fait. Ouais, je ne sais pas trop ce que ça allait donner, quoi. Et vu le résultat, je me dis que ça a quand même bien marché. Et puis j'ai eu 2 semaines d'acclimatation quand même sur place là-bas aux États-Unis. Donc ça a permis de
Ah
finir
oui,
la préparation à l'altitude, quoi.
ça c'est pas mal parce que j'avais observé quand je vais à Tignes que c'est au bout de 10 jours où mon paramètre de saturation en oxygène il revenait à la normale, c'était au bout de 10 jours, donc 2 semaines
Ah ouais.
t'étais bien.
Ouais, 2 semaines.
ce que tu as vérifié en faisant des prises de sang, si tu gagnais en hématocrite ou si tu perdais un peu en fer, est-ce que tu as vérifié ça?
Ouais, ouais, alors en fait, j'ai en plus l'hématocrite, ouais, c'était le fer. J'ai fait une prise de sang avant de commencer en altitude parce que ça fallait vraiment pas que je commence avec des taux de fer trop bas parce que le
Oui.
risque de finir est super fatigué. Donc la première prise de sang, je l'ai passée, j'avais des super taux. Là, même le médecin m'a dit, oh, mais t'es super bien au niveau de tous les signes. Il y a plusieurs signes au niveau du fer, enfin, plusieurs coefficients, saturation,
Oui,
enfin, plus.
t'as
Et
trois
tout
marqueurs.
était vraiment très bon. Donc bah là déjà bon, c'est cool et j'en ai refait une à la fin donc ça avait diminué le fer
Ouais.
et ça avait diminué mais c'était normal par rapport à ça et par contre le donc c'est le coefficient je crois qu'elle m'a dit le médecin qui était toujours bon donc elle m'a dit il n'y a aucune inquiétude c'est tout à fait normal là ça a puisé dans le fer et puis le corps il va réagir derrière ça va se mettre en place c'est normal et au niveau d'hémoglobine ouais j'étais déjà haut avant j'étais à 16,4 en fait
Oula,
donc
ouais, ah ouais, t'es super haut.
ouais, mais après c'est des chiffres qui sont, bon, pour assurer, c'est des chiffres que j'ai déjà enfin, régulièrement, toutes les prises de sang que j'ai eu fait avant les UTMB, choses comme ça, je suis assez haut quand je suis reposé, donc là c'était le cas. Bah, après pendant les 3 semaines, donc j'ai fait l'attente d'altitude là, je m'entraînais beaucoup, je courais beaucoup, donc il faut savoir que quand tu cours beaucoup, tu casses des globules rouges, et donc à la sortie de l'attente, j'étais un petit peu plus bas, j'étais à 15,4, je crois que j'ai perdu un point. Et j'ai pas refait de prise de sang depuis, et là par contre on va faire une la semaine prochaine pour voir où j'en suis. Donc ça permet là, ça sera 10 jours après la course, donc normalement je vais voir si c'est pas impossible que j'ai déjà un très bon taux là 10 jours après la course. Ce que j'ai cassé pendant la course, ça sera refait, et puis j'aurai peut-être la surcompensation quoi de l'altitude maintenant que je suis revenu là au niveau de la mer en fait. Je verrai dans 10 jours.
Ah oui, alors moi par contre, j'avais après l'altitude, j'avais augmenté encore mon hémoglobine, mais par rapport à toi, je partais d'assez bas. Donc après, je sais pas si ça peut jouer. Est-ce que tu as pris d'autres compléments pendant que tu faisais ton entraînement en altitude? Est-ce que tu as suivi d'autres consignes sur la bouffe, la boisson?
Ouais, alors sur les compléments, en fait, depuis le début de l'année, là, bah, depuis que je suis connaissant du sport, Annick Déjac, elle me complémente, elle m'a dit, de toute façon, t'es sportif, tu fais du sport au niveau, donc elle me complémente en fer, vitamine C, vitamine D et magnésium tout le temps, donc là, je prends ça tous les jours, et là, d'autant plus que je faisais à l'altitude, il y avait le fer et la vitamine C, et la vitamine C, par contre, j'ai arrêté les 10 premiers jours, parce que
Ouais.
pour... Ça, je savais pas. Et ouais, faut arrêter là quand vraiment tu fais de vraiment l'altitude les 10 premiers jours parce que ça c'est au niveau de enfin, au niveau pulmonaire je crois que ça empêche une adaptation je crois que les 10 premiers jours et après j'ai
Oui.
raté. Donc ouais c'est je complémente en fer en vitamine C mais je le faisais déjà naturellement avant depuis quelques
Ah oui.
mois.
Ouais, parce qu'en fait, les antioxydants, ben, c'est vachement bien, sauf que les 10 premiers jours, tu es en train de t'adapter à l'altitude et du coup, tu vas
Oui,
bloquer
c'est ça.
l'adaptation.
Exactement, c'est ça.
C'est
Ouais,
en pensant bien faire, tu peux
ouais,
mal faire, quoi.
exactement.
Ok, ouais. Pas d'oméga-3, non? T'as pas vu ça?
Non, je n'ai jamais, non.
Ah ouais, bah si tu refais, tu devrais essayer.
Je supplémente pas après, ouais, j'en mange pas mal pour le coup, mais je supplémente pas, ouais.
Ouais, quand t'es en altitude, ça aide à créer un peu le globule, hein. Bon, après, c'est pas magique, hein, mais...
Ouais, après, c'est ouais, c'est l'optimisation, c'est comme tout, quoi.
Ouais. Ok, ouais. Et du coup, quand t'as pris le départ, tu t'es dit que ta prépa en altitude, elle était bien faite, ouais, t'avais pas mal à la tête, rien, t'avais des bonnes sensations.
Ouais, mais en fait, quand je suis arrivé sur place là-bas, j'ai laissé un jour ou deux en arrivant quand même, surtout qu'on est un voyage un peu difficile, des changements d'avion et tout, bref. Et j'ai fait un petit footing le premier jour, et après j'ai attaqué direct, j'ai fait 3 jours de repos, j'ai fait 3 bonnes journées où je faisais entre 4 et 5 heures. Ouais, j'étais à presque 10 jours de la course, donc il fallait vraiment pas que je passe plus tard. Et ouais, c'est vrai que les premiers jours, ben... Pendant mes sorties, ça allait, mais quand même au-dessus de 3005, je sentais bah, vraiment la différence au niveau respiratoire. Et puis le soir, j'avais un petit peu mal à la tête quand même en rentrant. Donc ça a duré 2, 3 jours, et après, non, ça a été vraiment bien. Et puis à la fin, j'y pensais plus, quoi. J'ai fait même un peu des intensités en altitude. Je poussais un peu, quand je montais à 4003, j'ai fait le sommet un peu vite. Donc ouais, je suis arrivé le jour de la course, j'étais confiant par rapport à l'altitude, du fait que j'avais aucune gêne au niveau mal de tête ou même des jambes lourdes. Voilà, après bon, ça restait une course, donc je savais pas comment ça allait se passer le jour J, quoi.
Ok, ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler de la logistique. Donc,
La quoi, pardon?
tu pars en gros d'Annecy et tu arrives à Silverton. C'est quoi la logistique en termes de voyage? Ça prend combien de temps?
Ben, la logistique normale, parce qu'on a eu pas de chance, on est parti de Genève en disant on va aller chez les Suisses, comme ça eux ils font jamais grève, hein, par rapport à la France. Et bien sûr, on est tombé le jour où ils ont fait grève. C'est 104 ans qu'ils n'avaient pas fait de grève à Genève et on est tombé le jour-là.
Ah merde.
Donc, le vol Genève, en général, pour aller à Silverton, on est passé par, on arrive à Denver, la destination finale. Donc, le gros vol, c'était Zurich-Denver. Et en partant de Genève, on devait faire Genève-Zurich avant. Et donc, ce vol-là était annulé. Donc, c'était à voir. On est resté, donc, ils nous ont payé l'hôtel à Genève et il y avait un autre vol le lendemain. Et le lendemain, il y avait encore les grèves. Du coup, ils nous ont payé des billets de train pour aller à Zurich, pour assurer le coup quand même. Et du coup, après, on a fait Zurich-Chicago, on a fait une escale, et Chicago-Denver. Donc, on a perdu une bonne journée de voyage, je crois, quand même. Et bon, c'est comme ça. Et après, de Denver, quant à Denver, il te reste encore 6h30 de voiture pour aller. Ou sinon, tu as l'option de
Ah
prendre
ouais.
un... Ou sinon, tu prends un autre vol interne. Qui s'est arrivé à Durango, qui est là, qui a 1 heure de la course. Mais c'était plus long d'attendre encore à Denver. Donc 6h30 de route, après, bon, c'est agréable parce que tu passes par des chouettes paysages quand même. Et puis, j'étais pas tout seul, enfin, c'est pas moi qui conduisais, je pouvais me reposer. Et puis, voilà, on profitait des paysages quand même, qui sont quand même sacrément jolis. Donc, ouais, voilà, c'est un bon voyage quand même, hein, pour y aller. C'est un peu plus d'une journée, non, un peu moins d'une journée, quand même, je dis. C'est un vol de le gros vol il dure dans le sens aller il dure une bonne dizaine d'heures et au retour un petit peu moins de 10 heures.
D'accord. Ouais, ok. Quand tu arrives sur les lieux, qu'est-ce qui te frappe? Est-ce qu'il y a un truc, je sais pas, la taille des montagnes? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a frappé par rapport à chez toi en Haute-Savoie?
C'est l'immensité ouais, des paysages en fait c'est chez nous ça reste assez peuplé quoi ben, vers Annecy, Chambéry t'as des montagnes, mais tu vois plein d'habitations, plein de villages. Et là-bas, tu peux. T'as Silverton, t'as Durango de l'autre côté, t'as Ouray. Et au milieu de ça, t'as quasiment rien. En fait, tu roules sur des énormes routes et tu vois juste deux, trois maisons par-ci, par-là, des grandes forêts. C'est très, très sauvage. Tu vois des biches, des cerfs de partout au bord de la route, des marmottes traversées. C'est le côté sauvage qui m'a le plus surpris. Parce que après, ça reste de la montagne d'altitude, un peu comme chez nous. Hein. C'est pas la même végétation, il y a des arbres jusqu'à 3005, c'est pas le même climat, mais ouais, c'est le côté immensité qui m'a un peu impressionné.
Ah, ok. Et quand tu. Donc là, tu prends le départ d'une course où il y a 145 partants à peu près. Qu'est-ce que tu te dis? Parce qu'en plus, il y a 145 partants, mais de bons coureurs, vous êtes 4-5. Qu'est-ce que tu te dis? Je vais me retrouver tout seul dans cette immensité. T'avais la trace GPX. Qu'est-ce que ça raconte un peu le balisage, les ravitaux? Est-ce que tu croises des
Ouais,
bénévoles?
bah j'avais reconnu donc certaines parties de course, donc j'avais rentré pendant mes recours sur ma montre les traces.
Ah ouais,
Et
il les donne.
ouais, bah déjà les recours, ouais, et heureusement, parce que je me disais, ouais, il y a des endroits pour vraiment pas louper le croisement. Et le jour de la course, ouais, faut bien avoir la trace dans la montre, parce que j'avais pas fait la partie du jour de la course, je l'avais pas reconnu. Il y avait des fanions le jour de la course, bien sûr, mais franchement, c'est. Ouais, s'il y a un chemin, ils ne s'embêtent pas à mettre des fanions comme à l'UTMB tous les 100 mètres. Hein. Et puis, des petits fanions, ils sont orange, mais il y en a, ils brillent plus ou moins. Faut bien avoir la montre et de la regarder bien. Il y a une fois ou deux, j'ai failli me planter. Donc, ouais, quand tu es sur une grande piste forestière, ils considèrent que faut la suivre. Si tu n'as pas de fanion, tu continues dessus. Et ouais, je pense qu'il considère en fait que tu connais la course ou que tu as bien regardé le parcours à l'avance. Et puis les ravitaux, bah c'est super sympa, ça. C'est vraiment très agréable parce que tu as le droit dès l'extérieur, je crois, sur 6 ravitaillements, et dont un qui est vraiment très éloigné, quoi, des 4 pour y aller. Moi, j'ai eu la chance qu'Adrien Siguret y aille pour Annie de Roussel, donc il m'a bien aidé parce que mes parents n'auraient pas pu y aller. Et sinon, pour les autres ravitaux, c'est les ravitaux de la course, du coup. Et là, quand t'arrives, bah, ils t'aident vachement, les bénévoles. Ils prennent des gourdes, ils te les remplissent. Et puis, t'as vraiment beaucoup de choses pour manger. C'est vraiment une bonne ambiance. Ils sont vraiment là pour.
T'as mis un coup de pied dans le
M'entends?
micro, non?
Ouais, non, c'est la valise, pardon, c'est ma copine qui a fait la valise.
Ok, ouais. Ouais, donc c'est. Voilà, t'es en confiance, même si t'es tout seul.
Ouais, oui. Et puis après la partie de. En fait, à l'inverse de l'UTMB, tu pars le matin à 6 h du matin, et du coup, ben, les premiers, nous, on a terminé. Moi, je suis terminé en pleine nuit, je finis à 5 h du matin en pleine nuit.
Ouais.
Et toute la fin de course est de nuit. Et c'est la seconde partie de course où tu as le droit d'avoir un pacer. Donc tout le monde n'en a pas, hein. Baignade qui a fait deux, il n'en avait pas, mais moi j'étais avec Ludo Pommeret, donc c'est vrai que j'étais confiant, quoi. En plus, j'avais reconnu cette partie, et puis lui il avait la trace dans la montre, je le suivais, j'allais monter comme ça, ouais, j'étais confiant. Il faut savoir quand même qu'il y a des ours là-bas. Moi j'en ai pas
Oui.
vu, mais Baignade, pendant la course, il y en a un, il est tombé face à un ours avant la tombée de la nuit. Et bon, c'est pas les ours qui sont agressifs, hein. Il n'y a pas d'attaque en général, mais bon, ça rassure pas forcément non plus. Par rapport à un sanglier chez nous ou un cerf, c'est rien du tout, je pense, pas pour un ours.
Bah ok, ouais. Ouais, impressionnant. Et t'as des consignes quand tu rencontres un ours,
Non, bah, pas
l'organisation
du
te
tout.
donne une consigne ou...
Ouais, non, pas du tout, ils en parlent. Non, ils en parlent pas du tout de l'ours.
Ah ok.
Ouais, je pense que enfin, je crois qu'il n'y a jamais d'attaque, hein. L'ours a vraiment peur de l'humain. C'est pas le grizzly. Attends, c'est le grizzly ou c'est l'ours au brun? Je sais plus lequel des deux peut attaquer. Là-bas, c'est celui qui attaque pas, quoi, en gros.
Oui.
Non, là où il nous brief, c'est sur le. On a une balise GPS avec nous pendant la course, et dessus tu peux déclencher un SOS si les secours viennent, parce qu'il y a quasiment pas de réseau sur la course. T'en as vraiment à Silverton, t'en as à Ouray, et entre les deux, t'as quasiment. Et à Telluride, quoi, les trois villes, quoi. Mais sinon, t'as pas de réseau. Donc t'as une balise GPS, comme ça, si t'as un souci. Parce que quand t'es que 145 sur la course, ben. Ouais, c'est pas comme l'UTMB, je pense que même ceux qui sont mieux de peloton, ils doivent pas voir un grand monde quand t'es en pleine nuit, quoi.
Ouais, ça dépend un peu de ta place, ouais. Ok, ouais, et bon, sur Patreon, on a tous suivi un peu la course avec le live, avec la revue de presse que je fais où je mets le résultat. Donc on a vu que tu étais parti bah, un peu tout de suite, et puis après, tu as tout fait devant. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement les grandes lignes? Est-ce qu'à un moment donné, tu as quand même eu un petit coup de moins bien, ou est-ce que ça a été du papier à musique du début à la fin?
Non, pas du début à la fin non plus. Après, bon, c'est vrai que quand je regarde la course, en fait, les écarts, ils ont, avec Benyat qui était deuxième, en fait, ça n'a fait qu'augmenter du début à la fin. Je crois qu'il y a un seul
Ouais.
partiel où il a fait jeu égal dans une descente. Mais sinon, ouais, c'était le scénario parfait pour moi, parce qu'au sommet de la première montée, je me retourne en haut, je le vois déjà, enfin, il n'était pas deux là, mais je les vois derrière, il était déjà à 3-4 minutes, j'estimais. Au ravito qui est en bas, déjà presque, enfin, j'avais 4 minutes 30 au bout de 2 heures de course. Donc c'est vrai que j'ai vraiment pu gérer mon truc, quoi. Je me suis jamais mis dans le rouge en me disant, bah là, faut appuyer. Et naturellement, en fait, je me suis retrouvé avec 10-15 minutes d'avance. Donc c'est quand même agréable à gérer, hein, ça. Prendre dans cette position-là, c'est mieux que de chasser derrière à 15 minutes. Et après, ouais, la journée, il faisait chaud. Il fait 25 degrés, t'es à plus de 3000, 3005 même. Moi, j'ai vite tendance à transpirer, à avoir chaud. Donc, c'est pas les conditions que j'affectionne. Il y a très peu de parties boisées, donc t'es vraiment exposé au soleil. Et là, je transpirais beaucoup la journée, j'ai perdu beaucoup de sel. Mais les écarts, encore une fois, ils ont fait qu'augmenter. Et quand je suis arrivé à la tombée de la nuit, là, j'étais avec Ludo. Enfin, un peu avant la tombée de la nuit, c'est la grosse partie qu'on appréhendait. C'est une piste forestière qui est digne d'une route, hein, qui est digne d'une route où tu peux passer avec quatre voitures, qui est large. T'as les 4x4 qui descendent, tu bouffes de la poussière, t'as les motos, c'est en fin de journée. Et t'as 13 bornes à monter, je crois que t'as 1000 mètres de dénivelé, c'est à peu près du 8% de moyenne. Et là, c'est pas facile, hein. C'est après le 95e kilomètre. Dans la théorie, tu te dis, je vais la courir, cette partie, mais en fait, tu marches, tu cours, tu marches, tu cours, et j'étais pas bien frais, quoi. J'étais pas bien frais, mais encore une fois, bah, arrivé au sommet, j'avais pris, je crois que j'ai pris 7 ou 8 minutes, ouais, 8 minutes à Baignat. Donc, à ce partir-là, j'avais 30 minutes d'avance. Donc, 30 minutes, ça se bouge pas non plus comme ça. Donc, je me suis dit, bah, si tu continues sur ce rythme-là, voilà, sans couler une bielle, bah, non, ça devrait le faire. Et puis après, la nuit s'est bien passée. En gros, j'avais vraiment une très bonne sensation de descente. Je descendais vraiment vite. Même Ludo me disait, là, tu descends vite. Et puis les montées, je gérais un peu. Ouais. Plus ou moins dur quand même, hein, les montées. Mais ouais, dans l'ensemble, ça s'est quand même très bien passé.
Ah, ok, ouais, donc c'est assez sympa. Donc tu disais que tu allais être coté à peu près à 900 hein, tout à l'heure quand on discutait.
Ouais, a priori, je pense. Hein, ça va, à voir s'ils tiennent compte. Il y a deux petits changements par rapport à 2021 où Dylan Bowman, il met un quart d'heure de moins que le temps que j'ai mis là. Il y a deux petits changements qui rallongent d'environ 10 petites minutes. Et puis surtout, la grosse différence là de cette année, je lui ai écrit à Dylan, je lui ai demandé s'il pensait que c'était beaucoup, enfin, que c'était plus long que 2021. Lui, il me dit oui, au moins. Il me dit 1 heure. Non, 1 heure, je pense, un peu beaucoup, un peu gros. Mais je pense une bonne demi-heure faudra enlever parce que on a eu des conditions de neige et enfin, plus que la neige en fait c'est la neige qui fondait surtout et on se retrouvait dans des endroits à patioquer dans des zones très humides où alors, déjà t'as les pieds mouillés tout le long hein. Alors là encore plus t'enfonces un peu dans la boue et tout et après la nuit l'inverse avait regelé en haut les sommets à 4000 on passait sur des névés une zone qui est t'as même pas de chemin, on a perdu beaucoup de temps avec Ludo là. Mais ouais, bon après ça, c'est ouais, environ 900 je pense.
Ok, ouais. Donc un voyage totalement satisfait.
Ouais, bah oui, complètement là. T'es allé pour le voyage et pour la course, bien sûr. Donc quand tu gagnes une course comme ça, comme l'Hard Rock, quand même un mythe sur les ultra trails, fait partie des grosses courses. Donc ouais, là, très satisfait.
Et tu avais déjà fait deuxième de l'UTMB en 2021. Là, tu es dans une ambiance complètement différente, parce que bon, il n'y a quasiment personne au bord de la route, à part sur les quelques ravitaillements. Tu trouves que c'est plus facile de performer sur l'UTMB ou sur la Hard Rock quand tu es un peu plus seul? En plus, là, tu n'es pas perturbé par les autres coureurs, quoi.
Ouais, exactement. Puis bah, la grosse différence, c'est que c'était un peu tranquille même avant la course. Enfin, j'ai vu l'année
Ah oui.
passée, à l'UTMB 2021, bah, il y a quand même pas mal de sollicitations. T'as Chamonix, ça brasse. Enfin, voilà, c'est un peu pas oppressant. Moi, ça me gêne pas, mais bon, c'est pas le plus agréable non plus, quoi. Et là, pour le coup, ouais, tu vas chercher ton dossard. T'as plus de bénévoles que de coureurs. En plus, nous, bon, on ne connaissait pas forcément là-bas les Français. Ouais, c'est un côté quand même agréable. Et en même temps, ça fait un peu spécial de passer. Je suis arrivé à 5 h du matin, à la ligne d'arrivée. Je pense qu'il y avait peut-être 20 spectateurs. Allez, ouais, 20 plus ma famille, plus les journalistes, quoi. Il y a plus de journalistes à la fin
Oh,
que de quoi.
c'est plus qu'au Templier le dimanche matin quand Jonathan
Ouais.
Albon y gagne.
Ouais. Ah ouais. Ouais, non, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Quand t'arrives et en plus quand Courtenay arrive finalement parce que c'est il y a déjà le jour qui s'est levé donc les gens sont levés mais moi à 5 h du matin il y a personne quoi
Ah
il y a plus
ouais.
de monde même quand il y a Bennett il faisait jour quand il est arrivé lui ouais le quand le jour se lève ben, les gens sortent et viennent voir quoi. Mais avant ça il n'y a pas grand monde donc ouais c'est deux ambiances vraiment différentes quand on parle l'UTMB et ça c'est vraiment deux ambiances différentes.
Ok, ouais, bah c'est bien ce qui se ressent quand on voit les quelques vidéos. Alors, quelle est la prochaine course, Aurélien? Est-ce que toi aussi, comme Benyat, tu enchaînes avec l'UTMB?
Non, je n'enchaînerai pas parce que premièrement, je n'ai aucun point UTMB, je n'ai fait aucune course, donc je n'ai pas le
Ah
droit.
oui, c'est vrai.
Voilà, donc même si je voulais, je ne pourrais pas.
Oh, mais t'avais
Et
fait
non,
exprès!
je fais exprès, c'était pas prévu, de toute façon, ouais, c'était pas prévu. Et non, l'idée, moi, c'est faire la diagonale des coups, mais non, pas l'UTMB entre les deux. Ça me suffira la diagonale. Je vais peut-être faire probablement même une course by UTMB en septembre, Wischrubel. De 70 km pour espérer me qualifier pour l'UTMB 2024. Puis ça fera un peu un début de prépa pour la diagonale. Mais d'ici là, non, rien du tout. Là, je vais vraiment prendre le temps de récupérer. Même si tout va bien là, je vais vraiment faire une petite coupure, quoi.
Ouais, très bien, très bien. Tu as vu que pour te qualifier à l'UTMB, tu avais simplement besoin de faire une certaine cotation qui est largement en dessous de ton niveau. Donc, normalement, tu as juste à courir un petit peu. Ouais.
Ouais, c'est ça. Je sais plus, c'est 800 ou 820. Je crois que moi, j'ai été resté sur 820.
C'est quoi le format où t'es?
C'est 70. C'est 70. C'est un 100 miles. C'est un 100K, pardon.
Ah, bah, c'est 800, hein.
Ah, c'est 800 même. Donc oui, donc normalement, c'est plus. Ouais, même les courses où j'ai pas été bon, d'habitude, je marque un tout petit peu plus de 800. Donc ouais, normalement, ça devrait le faire.
Ouais, normalement, c'est ton niveau d'une rando course appuyée, je pense.
Ouais, je sais pas, mais. Ouais, on était 90 du Mont Blanc, tu te rappelles quand tu m'as rattrapé, là. Bon, j'ai quand même réexpéré à la fin, mais j'en ai marqué un peu plus de 800, on avait fait 805, je crois, un truc comme ça, ou 809, quand j'ai dû faire.
Ouais, bah toi, t'étais pas bien, je sais plus pourquoi, et moi, je m'étais fait opérer des yeux, donc je pouvais pas bien descendre. Et toi, je crois que tu pouvais pas bien monter.
Bon, oui, en fait, ça allait bien en descente. Ouais. Ça allait bien, j'ai pas d'énergie en montée. J'ai chopé un espèce de virus que je n'ai jamais étiqueté, mais j'étais pas bien tout l'été 2021, hein, jusque avant l'UTMB. Et après, ça a été l'UTMB.
Ok, ouais, bah écoute, merci Aurélien, merci d'avoir pris le temps pour nous faire un retour comme ça, c'est vraiment sympa de ta part. Et on suivra cette Diagonale des Fous avec beaucoup d'envie. Toi qui as déjà essuyé trois échecs parce que tu étais à chaque fois blessé. Hein.
Ouais, exactement, c'est la quatrième fois que j'y vais, donc jamais 203, c'est fait. Donc
Ouais.
j'espère que ça va le faire. Je connais très bien le parcours. J'ai pu quand même aller sur le parcours plein de fois. Je connais l'île et tout, donc c'est déjà un bon avantage. Je sais où je mets les pieds, mais ouais, je voudrais quand même bien prendre le départ et puis voir l'arrivée surtout.
Oui, parce que t'as jamais pris le départ même.
Ah non, non, même pas. Non, non, j'ai jamais pris le départ. Ouais. Même pas. À chaque fois que j'étais sur place, j'étais blessé. Donc, la première année, non, je suis arrivé. J'ai fait un dernier test en arrivant, mais ça l'a pas fait, et donc là, ouais, non, j'espère que ça sera la bonne, quoi.
Oui, c'est bon.
Ouais, le tourisme, c'est bien, mais vraiment, rentabiliser le voyage.
Ok. Bah écoute, merci Aurélien, je te souhaite une bonne soirée, puis récupère un peu de tous tes voyages et décalages horaires.
Ouais, merci. Merci beaucoup. À bientôt.
Salut!